Bien, bonjour. On m'a demandé de venir vous parler pendant la prochaine heure du steampunk et je vous propose que nous passions ce temps pour essayer de comprendre ce qu'il est, d'où il vient, peut-être envisager où il va. Et j'aimerais bien qu'en fin de... à la fin de l'heure, on ait le temps de discuter peut-être un petit peu si vous avez des questions. Le steampunk est certainement un des points d'agitation majeurs des arts de l'imaginaire. J'ai bien dit les arts de l'imaginaire et non pas les littératures, parce que loin de se cantonner dans la sphère littéraire, le steampunk touche à toutes les formes de l'imaginaire, du jeu de rôle à la bande dessinée, du roman au cinéma, des arts plastiques à la mode. Bon, n'allons pas trop vite. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc, en premier lieu, juste avant de se pencher sur ses origines, il y a un problème qu'il faut que nous affrontions ensemble, celui de la définition. Car vous vous en doutez, ce problème est vaste, difficile. Il peut amener rapidement à des arguties techniques aussi complexes que peu satisfaisantes. Est-ce que le steampunk est un genre? Est-ce que c'est un sous-genre? Est-ce que c'est un sous-genre de la science-fiction, un sous-genre de l'Uchronie, un sous-genre du fantastique? Est-ce qu'il, au contraire, est-ce qu'il n'est rien de tout cela? Est-ce que ce ne serait qu'une forme creuse, une espèce de grammaire? Est-ce qu'il a simplement un sens en tant que genre, au même titre que la science-fiction? Et la question qui me travaille le plus, est-ce qu'il est simplement possible de le définir? Cela n'a jamais été fait de manière définitive, de manière satisfaisante. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des pages et des pages et des pages écrites sur des forums sur Internet qui aboutissent finalement à une simple question qui se divise en deux. Est-ce que telle œuvre est steampunk ou est-ce que telle autre ne l'est pas? Je crois qu'une manière élégante, convenable, de ne pas aborder ces questions et par conséquent de parvenir à y répondre et de dire que le steampunk est une esthétique. C'est-à-dire qu'il offre une trousse à outils qui permet de créer de la fiction. Une esthétique qui permet de créer de la fiction. Cette notion d'esthétique nous permet de comprendre cette contamination du steampunk qui a quitté la littérature pour toucher tous les arts, qui passe d'un genre à l'autre, d'un média à l'autre, presque sans aucun effort. Il est possible de prendre un élément par là, un autre élément par-ci. Il est possible de s'approprier une dose de steampunk sans forcément embrasser toutes ses caractéristiques. Donc sa grande force, c'est d'être une forme malléable. On pourrait même dire molle. Il n'est pas un carcan fait de rêves, de règles, de contraintes. Au contraire, il est une ouverture permanente sur d'autres formes artistiques, le tout dans une circulation assez étourdissante, assez épatante, de thèmes, d'idées. Un exemple tout bête, un roman récemment traduit en français, qui est Les Revenants de Whitechapel, de George Mann, qui va mélanger... la façon dont je vais le dire va sembler indigeste. Ça va mélanger le Londres du 19e, des zombies, une technologie mécanique créée par Villiers de l'Isle-Adam, et le tout sur fond d'une enquête policière. Écrit tel quel, cela semble totalement incongru. Néanmoins, une fois que le tout est cuisiné à la sauce steampunk, cela fonctionne parfaitement. En cela, le steampunk est une chose peut-être un peu miraculeuse dans les transgressions qu'il permet. Vous le comprenez. Dire ce qu'est le steampunk est aisé, le voir est encore plus facile. Les illustrations qui passent actuellement derrière moi, vous les comprenez instantanément. Je peux gloser dessus, mais votre compréhension est nettement plus rapide. Et ce sont différents points que je vais tenter de vous expliquer. Justement, pourquoi est-ce que le steampunk nous parle immédiatement? Le steampunk comporte quelques caractéristiques immédiatement identifiables. La première, c'est que nous nous situons au début du XXe siècle. On peut partir de la fin de l'époque victorienne jusqu'à, grosso modo, la Première Guerre mondiale. Avec cela, on ajoute des avancées technologiques qui arrivent bien trop tôt. Ça va donc être l'ordinateur au XIXe siècle, des véhicules improbables qui apparaissent 50 ans avant leur invention, le tout basé sur la technologie du XIXe siècle. Donc des ordinateurs mécaniques, des robots géants qui fonctionnent à la vapeur. On peut ajouter comme autre thème celui des aventuriers qui vont partir à la rencontre de mystères, allant de l'occulte à la conspiration, allant du simple rythme trépidant de l'action au mystère policier. Donc, une technologie extraordinaire, l'ordinateur, les dirigeables, les simples inventions du quotidien qui sont ajoutées avant leur heure, le mystère et bien évidemment l'indispensable cortège de méchants. Le steampunk reprend et revisite quantité de figures du méchant qui vont du savant fou à l'assassin, du conspirateur politique au simple mégalomane qui a l'intention de conquérir le monde. Donc, vous le voyez, et vous le voyez à double titre, à la fois à travers les illustrations et à travers ce que je viens de dire, ce sont des motifs que vous connaissez tous. Même si vous n'avez jamais lu un seul roman steampunk, une seule bande dessinée steampunk, un seul film steampunk, vous en connaissez les figures. Parce qu'ils travaillent profondément l'archétype. Alors, ils ne citent pas, et c'est une distinction que je vais approfondir un peu, ils ne citent pas pour le plaisir de la citation. Il n'est pas dans le second degré ironique. Il n'est pas dans le clin d'œil fait au lecteur, dans une distanciation qui serait un peu cynique. Je pense qu'une grande œuvre steampunk peut être vue, peut être comprise, sans qu'on saisisse forcément toutes les citations, toutes les références. On sait spontanément que la référence est présente, on perçoit qu'il y a quelque chose, peu importe, après tout, si on n'est pas capable de reconnaître tel auteur perdu du 19e ou du 20e siècle. Ainsi, le steampunk est, et excusez-moi pour le gros mot, mais je vous promets que ce sera le seul que je vais prononcer, métatextuel. Ce terme barbare est très simple à comprendre. C'est simplement la présence d'un texte à l'intérieur d'un autre texte, sans qu'il soit forcément évoqué. Grosso modo, c'est ce que l'on vous reprochait de faire quand vous étiez au collège ou au lycée, sous le terme de paraphrase. On reprend, on revisite l'œuvre d'un autre auteur. Si vous voulez, c'est écrire une histoire qui va utiliser des éléments de La guerre des mondes d'H.G. Wells. Mais sans dire que j'utilise des éléments de La guerre des mondes d'H.G. Wells. Des personnages de Wells peuvent apparaître. Mon action peut s'insérer au cœur d'une péripétie d'H.G. Wells. Donc je revisite l'autre histoire et je développe en même temps une nouvelle fiction qui, elle, est totalement originale. Donc cette part métatextuelle est exactement ce qui fait du steampunk quelque chose d'extrêmement extrêmement moderne, pour ne pas dire post-moderne. Le steampunk se sert des fictions antérieures, de notre vivier commun de fictions antérieures, pour créer de nouvelles fictions. Mais nous ne sommes pas, et j'insiste là-dessus, dans la répétition, dans la redite. On cherche à créer quelque chose de nouveau. On ne reprend pas Wells, on ne reprend pas Verne. Au contraire, on dialogue avec eux. D'une certaine façon, on dialogue avec les souvenirs de lecteurs que l'on peut avoir d'eux. Dans un dialogue qui va être responsable, Je veux dire par là que les auteurs de steampunk ne sont pas en train de nous dire que le 19e siècle victorien ou que la belle époque française était une espèce d'époque idéale, d'âge doré, que l'on doit regretter, que l'on doit considérer comme un paradis perdu et qu'il faudrait absolument retrouver. Au contraire, hein, ils savent qu'il y a eu deux guerres mondiales, ils savent la bombe atomique, ils savent la réalité économique, sociale, politique de ces époques. Mais ils ont également lu, ils ont lu de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy. Un exemple très simple. Dans la série de bande dessinée Granville, de l'anglais Brian Talbot, nous avons les enquêtes policières d'un agent britannique, le détective Lebrock, dans la grande tradition du policier qui fait une petite enquête qui va déboucher sur un gigantesque complot qui touche les nations. L'histoire en elle-même n'est pas extraordinairement originale. Mais le travail de Talbot, comme le titre de la série l'indique, revisite l'œuvre de graphistes français comme Granville ou Robida. Il revisite énormément de titres et de grands personnages de la bande dessinée franco-belge. Et en plus, les personnages de son histoire sont tous des animaux. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la grande tradition de la fiction animalière dont il utilise admirablement les capacités. Donc, grâce à la forme steampunk, grâce à cette esthétique-là, il arrive à opérer une fusion d'éléments différents qui vont lui permettre de parler également de notre époque, de la guerre, de violence et de la plus éternelle histoire possible. Il va nous parler d'amour. Ainsi, en se projetant dans un passé fictionnel, les auteurs steampunk le réenchantent, se le réapproprient. Ils y retrouvent des échos de ce qui va devenir notre modernité, discutent avec des artistes dont ils revisitent les œuvres, les rêves, les cauchemars. Le steampunk sait que le passé est passé. Ça fait étonnant à dire, mais il faut quand même le rappeler. Il n'est pas nostalgique, il n'est pas moribond en se disant « c'était mieux avant ». Il est dans cette grande tradition du rétrofuturisme qui explore des souvenirs passés, des figures qui auraient pu être considérées comme ringardes. Un savant fou quand même, parce que c'est bien sérieux. Mais en montre au contraire toute la vitalité et revitalise un peu notre imaginaire contemporain qui commençait un petit peu à tourner en rond, qui avait bien du mal à trouver des figures nouvelles ou une parole qui pourrait nous toucher. Pour en terminer avec notre définition impossible, il faut quand même dire que le steampunk est une branche de l'uchronie, donc une forme de l'imaginaire qui imagine des passés alternatifs, mais une branche un peu hybride, hein, comme une bouture un peu mal fichue, qui aurait mal pris, et qui pourtant finit par faire de très beaux fruits. Là aussi, un exemple parlera mieux que moi. La trilogie de romans jeunesse de Scott Westerfeld, Léviathan, se déroule au tout début de la Première Guerre mondiale. Il nous propose de revisiter l'histoire de la jeunesse de ce conflit. On est donc, a priori, dans une uchronie qui est en train d'imaginer une histoire alternative. Mais il y a une différence de taille quand même par rapport à notre époque, c'est que l'Angleterre et l'Allemagne ne sont pas exactement ce que l'on connaît nous. L'Angleterre est dominée par les darwinistes, tandis que l'Allemagne l'est par les clankers. Donc cela a un lien avec la technologie. L'Angleterre a développé une technologie basée sur la maîtrise de la biologie et de l'évolution darwinienne, ce qui lui a permis de créer de magnifiques vaisseaux sous forme de chimères, de créatures vivantes, tandis que l'Allemagne est bien évidemment strictement mécanique et crée, elle, des machines de mort gigantesques, des robots géants. La mécanique contre le biologique, la nature contre la science. Bon, dans une uchronie, on nous aurait expliqué à quel moment de l'histoire il y a eu un point de bifurcation qui fait que cette nouvelle réalité a été, s'est mise en place. Le steampunk s'en moque. Le steampunk ne va jamais nous expliquer pourquoi est-ce que ce 19e siècle ou ce 20e siècle déviant existe. Simplement, il part d'un postulat qu'il pose et en exploite les conséquences. Il n'y a pas de démarche historique stricte. Encore une fois, le procédé n'est pas nouveau. Je vous renvoie au Mystère de l'Ouest, qui est une des toutes premières œuvres steampunk jamais réalisées. Eh bien, on accepte sans problème que nous sommes dans un monde où un improbable duo d'agents secrets circule en train à travers les États-Unis pour affronter, semaine après semaine, des méchants tous plus affreux les uns que les autres. Et si, au fil d'un épisode, on utilise une machine à remonter dans le temps pour aller sauver le président, d'accord. Mais à aucun moment dans la série, on va nous expliquer pourquoi est-ce que ce monde est comme ça. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis ont cette technologie-là? Nous l'acceptons parce qu'on se dit ben, c'est un univers à la James Bond, c'est un univers à la bande, enfin, à la bande dessinée, c'est un univers où l'humour permet de faire passer des choses. À aucun moment, on ne remet en cause l'existence de la fiction. On ne remet pas en cause l'existence de ce monde. Il y a une légèreté dans l'approche steampunk qui, il faut le dire, n'exclut pas qu'il y ait derrière un travail de recherche minutieux, une documentation graphique ou historique sérieuse. Mais la légèreté est affichée, et c'est la légèreté qui est mise en avant. Pour faire simple, le steampunk est à l'Uchronie ce que le Mystère de l'Ouest est à la science-fiction. Un assemblage qui ne peut pas fonctionner et qui pourtant fonctionne. Pour vous dire le fond de ma pensée et pour terminer sur cette histoire de définition, il n'y a pas de steampunk. Il y a des steampunks. À la limite, il suffit de voir, chaque artiste, chaque auteur réinvente un 19e ou un 20e différent avec sa sensibilité, avec ses idées, avec sa propre démarche. Chacun s'approprie le steampunk pour en faire quelque chose de personnel. À la limite, chaque artiste réinvente totalement le steampunk pour faire ce qu'il veut réaliser. Ce qui fait que quand on essaie d'avoir une vision d'ensemble, on obtient un tout composite où la somme des parties devient plus grande que le tout. Et c'est exactement ce qui est arrivé au steampunk quand il est né. Nous avons trois jeunes auteurs américains, californiens, Tim Powers, James Blaylock et K.W. Jeter, qui veulent écrire, ils veulent être publiés, ils veulent devenir des auteurs professionnels. Jeter a trouvé un contrat pour un éditeur qui propose de publier une série de romans qui seraient des fictions arthuriennes. Des uchronies où le roi Arthur réapparaîtrait à différentes époques de l'histoire de l'humanité. Les trois jeunes auteurs débutants se lancent à corps perdu dans l'écriture. Bon, pour vous montrer à quel point ils étaient naïfs, ils n'avaient même pas signé de contrat. Et comme bien souvent dans l'édition, le projet se casse la figure. Et nous avons nos jeunes écrivains qui ont des manuscrits sur le bras qu'ils ne... voilà, qui se retrouvent et qui se disent « qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc, ils commencent tous les trois à faire la course un peu pour aller placer leur fiction arthurienne auprès d'éditeurs. Jeter parvient à publier son Morlock Knight, qui n'a jamais été traduit en français. Et Powers, lui, décide de prendre le taureau par les cornes et il va couper tout ce qui concerne Arthur dans son roman et repartir de là pour écrire une autre histoire qui sera Les Voix d'Anubis. Les Voix d'Anubis qui est historiquement le premier grand livre steampunk. Les romans qu'il publie à l'époque, dans la critique et dans le milieu des fans américains, étonnent. Nous sommes dans les années 80 et ce qui domine par-dessus tout, c'est le cyberpunk. Donc le cyberpunk, une forme de science-fiction extrêmement codifiée, avec une doctrine écrite, avec les auteurs qui en faisaient partie, les auteurs qui n'en faisaient pas partie, une vision politique extrêmement marquée, et des fictions vraiment très très sombres, hein. Une vision du futur dominée par des méga-corporations qui écrasent l'individu, qui n'a d'autre échappatoire que la drogue ou se réfugier dans le cyberspace. Et arrivent ces livres qui sont des petites aventures qui se déroulent à l'époque victorienne. Machines infernales de Jeter est totalement... Enfin, ne peut pas être résumé. C'est impossible. Il y a trop de péripéties, trop d'événements. Un groupe de scientifiques qui luttent contre un savant fou... des carpes que l'on essaye de récupérer afin d'extraire une glande qui pourrait peut-être assurer l'immortalité. Il part dans tous les sens. C'est un plaisir permanent de lecture. C'est insouciant. Blaylock raconte les aventures d'un personnage qu'il reprendra dans plusieurs romans, Langdon St. Eve, là aussi un scientifique londonien, victorien, qui cherche à comprendre le mystère d'un mystérieux vaisseau volant qui parcourt le ciel au-dessus de Londres. Pour revenir aux Voix d'Anubis, nous avons un groupe de milliardaires américains qui, grâce à une invention merveilleuse, décide de remonter dans le temps pour aller assister à une conférence de Coleridge. On voit que c'est de la science-fiction, hein, des milliardaires qui veulent assister à une conférence de Coleridge. Et notre héros est l'universitaire qui est chargé d'assurer la visite. Bien sûr, tout va mal aller, et quand il va être temps de repartir, lui va se retrouver coincé dans le Londres de 1810. Et on va ajouter un mystérieux loup-garou roux, ce qui n'est pas facile à dire, des mages égyptiens, une faune dans les bas-fonds de Londres dominée par une espèce de clown qui vit en permanence avec des échasses, dans une course-poursuite permanente. Rien de sérieux. Rien de sérieux. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux au sens péjoratif, hein, mais au sens du plaisir communicatif de raconter une histoire, de vouloir faire passer un bon moment à son lecteur, et de lui proposer quelque chose de rafraîchissant. Et c'est dans le numéro d'avril 1987, Locus, que Jeter publie une lettre où il propose de baptiser les fictions qu'il écrit du terme de steampunk. 1987. Steampunk. Comment traduire ça ? Les mauvais garçons à vapeur. Le terme n'a aucun sens en anglais, il n'a aucun sens en français. Le terme n'est qu'une parodie de cyberpunk. Il a inventé ça, c'était vraiment pour se moquer de tous ces auteurs qui, à son goût, se prenaient beaucoup trop au sérieux. On est devant une boutade, une plaisanterie. Et cette plaisanterie a tout changé. Sans qu'il s'en rende compte, sans le faire exprès, cet acte a été un acte fondateur. Parce que tout d'un coup, et c'est une histoire que j'ai entendue des dizaines de fois, tout le monde, on aimait le steampunk, mais on ne savait pas que cela s'appelait steampunk. On aimait ces fictions victoriennes rétro-futuristes. On aimait les images, les livres, les jeux de rôle. On les trouvait nouveaux, séduisants, amusants, mais on ne savait pas que c'était du steampunk. Tout est là. donner un nom. Donner un nom, c'est s'approprier une chose, c'est pouvoir le faire sien. Et ce mouvement d'appropriation est fondamental dans l'histoire du steampunk. Nous avons énormément d'artistes dont les œuvres ont été qualifiées a posteriori de steampunk, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, avaient simplement fait leur chose. Voilà, ils avaient fait leur truc. Et après, on arrive et on leur dit « ça, c'est du steampunk ». Ah bon, d'accord. Mais nous n'avons pas un genre qui apparaît avec, comme cela arrive souvent en art, des artistes qui vont définir leur démarche. Hein, nous n'avons pas un mouvement qui posséderait les tables de la loi, qui en définit les caractéristiques. Chose évidente, Blaylock, Jeter, Powers sont passés rapidement à autre chose. Et ils ont poursuivi, ils ont poursuivi leur carrière et ne sont jamais revenus au steampunk. Si ce n'est, et c'est apparaître là incessamment sous peu, K.W. Jeter qui vient d'écrire la suite de Machine Infernale. Bon, les mauvaises langues disent qu'il a besoin d'argent. On verra. Le steampunk a existé avant d'être nommé. Sauf qu'au départ, ce n'était pas rétro-futuriste, c'était simplement futuriste. En France, nous sommes les héritiers des voyages extraordinaires. En 1880, Jules Verne, dans La Maison à Vapeur, qui imagine ce groupe d'aventuriers qui explore l'Inde, si je me souviens bien, à bord d'un gigantesque éléphant mécanique. Si vous avez eu l'occasion d'aller à Nantes et de voir les machines de Lille de la troupe royale de luxe, il y a un splendide éléphant qui rend hommage à ce texte-là. Bien évidemment, 20 milieux sous les mers, Nemo, le Nautilus, 1886, Robur et son Albatros, son vaisseau plus lourd que l'air qui parcourt la Terre. Nemo et Robur sont les deux premiers personnages excusez-moi si vous êtes des Verniens puristes, de savants fous qui vont utiliser leur technologie pour dominer le monde. En Angleterre, H.G. Wells, là aussi, la machine à explorer le temps, l'homme invisible, la guerre des mondes. On a là, toute une série d'éléments grammaticaux qui sont mis en place, qui n'attendaient de se confronter. Verne et Wells ne sont pas du tout dans les mêmes démarches. Verne était tenu par contrat à sortir un roman par an, ce qu'il a fait, avec une volonté d'éducation de son public et de son jeune lectorat, tandis que Wells était beaucoup plus marqué politiquement et cherchait beaucoup plus à évoquer une conscience sociale chez son lecteur. Il y a un troisième pilier qu'on connaît très mal en France, c'est le pilier des Edisonnades américaines. Donc ça n'a jamais été traduit. Ce sont tous ces romans qui font de Thomas Edison, donc l'immense Thomas Edison, un personnage de fiction. On avait donc ce scientifique, qui était un homme d'affaires averti, qui était le héros d'une somme absolument folle de livres qui racontaient ses aventures à travers le monde, que ce soit Edison qui crée les armes nécessaires pour que l'armée américaine aille enfin mettre une pâtée à ces martiens, qui venait de détruire l'Angleterre. C'était très marqué idéologiquement à l'époque. On peut évoquer aussi une curiosité, le Stingman of the Prairies, d'Edward Ellis, qui raconte les aventures d'un jeune homme qui fabrique un homme mécanique qui fonctionne à la vapeur et avec lequel il part et s'enfonce par-delà la frontière américaine, c'est-à-dire dans les territoires indiens, pour y vivre d'extraordinaires aventures. Donc un petit roman, assez mal écrit, mais qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, qui racontait un récit initiatique, un roman de formation. Il y a donc tout un patrimoine là, qui existait, qui était vivace, vivant, Qui n'a jamais attendu le steampunk pour être revisité. Là, juste quelques petites références rapides. L'écrivain anglais Moorcock, qui dans sa série dite des Nomades du Temps, raconte une série d'aventures d'un capitaine anglais, Bastable, qui par malchance, alors qu'il était en mission en Inde en 1902, se trouve projeté dans le futur, en 1973. Sauf que c'est un futur alternatif où la technologie est basée notamment sur les dirigeables, etc. Ce qui est intéressant dans la série de Moorcock, c'est que les différents romans sont tous présentés comme des témoignages authentiques. C'est donc un manuscrit qu'un ami a confié au grand-père de Moorcock, un texte que Moorcock a trouvé lui-même, etc. Donc tout un jeu uchronique qui est particulièrement savoureux. Deux autres romans qui sont des classiques, Le Frankenstein délivré de Brian Aldiss en 73, et bien évidemment La machine à explorer l'espace de Christopher Priest. Comme leur titre l'indique, ces romans, quelque part, s'ils avaient eu un grand succès, auraient été le steampunk quelques années avant la naissance du steampunk, vu que dans les deux livres, les protagonistes vont côtoyer, alors dans l'un, la créature de Frankenstein, dans l'autre, les Morlocks de Wells, mais surtout, toujours dans cette dimension métatextuelle, vont rencontrer les auteurs. Donc dans Frankenstein délivré, le personnage principal va rencontrer Frankenstein, mais va tomber amoureux de Mary Shelley. Dans La machine à explorer l'espace, il y a les Morlocks, mais on va croiser H.G. Wells. Donc la fiction va agglomérer à la fois la fiction qui sert de référence et l'auteur. Sauf que, dans ce début des années 70, c'était des fictions victoriennes, et on disait ça parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de le nommer. Encore une fois, le nom n'existait pas. Ce qui n'était pas le cas quand est apparu le steampunk français, le steampunk francophone. Le tout en 3 ans, au tout début des années 2000, avec une jeune maison d'édition, Mnemos, qui publie des premiers romans, qui vont tous être des romans steampunk. Mathieu Gabory, Fabrice Collin, Fabrice Calvo. Les choses bouillonnent, ça bouge dans l'édition française. On fait encore du steampunk victorien, pour l'instant. Michel Pagel, dans L'équilibre des paradoxes, est le premier à proposer une histoire de voyage temporel qui se déroule en Bretagne au début du XXe siècle. Mais c'est avec le roman de Jean Héliot, La lune seule le sait, en 2000, qu'apparaît le livre qui sera le premier roman de steampunk francophone. Et encore une fois, Jean Héliot n'avait jamais entendu parler de steampunk quand il l'a écrit. Il me l'a confirmé, et il a été le premier étonné de voir la réaction des lecteurs et la réaction des critiques qui lui disaient « Waouh, du steampunk français !» Parce que dans son livre, on n'est plus dans la fiction victorienne. On est en France. Cela change tout. Le personnage principal, Jules Verne, envoyé par le chef de la résistance, forcément Victor Hugo, dans une mission secrète sur la Lune, dans les bases sélénites, afin de libérer Louise Michel, qui est prisonnière là, dans les geôles souterraines. Parce que depuis que les extraterrestres ont débarqué à Paris, Napoléon III bénéficie d'une technologie supérieure qui lui a assuré la domination du monde. La grande différence avec les autres titres qui existaient auparavant, c'était que l'imaginaire qui était brassé, c'était un imaginaire anglo-saxon que je pouvais partager, mais qui n'était pas forcément le mien. Tandis qu'ici, Héliot lui s'empare d'un imaginaire francophone et il l'explore dans un récit à la fois trépidant et profondément... Alors, il n'y a aucune connotation dans ce que je vais dire, hein, profondément français. Et le lecteur qui s'y plonge est immédiatement en terrain de connaissance. Et on va toujours être dans un sourire de connivence avec le lecteur en se disant, avec l'auteur, en se disant, bon Dieu, il a osé faire ça. Donc, il était possible, avec ce livre, de faire un steampunk non victorien, un steampunk qui se nourrirait de références culturelles nationales. Mais là encore, il s'appuyait sur un terreau qui existait déjà. Mais on ne savait pas que c'était du steampunk. Je pense à ce que faisait un dessinateur comme Jacques Tardy. Je pense bien évidemment à l'œuvre de Schuiten et Peters. Donc le grand public était familiarisé d'une fiction rétrofuturiste, référentielle, métatextuelle. Donc il lui suffisait, voilà, il ne suffisait que qu'avoir la petite étincelle qui fait que actuellement en bande dessinée francophone, il y a des séries qui durent. Donc ça veut dire que si les éditeurs continuent à publier volume après volume, ce sont des séries qui se vendent. La série Hauteville House. Bon, encore une fois, on a Victor Hugo, chef de la résistance, avec Gavroche, qui est son super agent secret, qui lutte contre Napoléon III à travers le monde. Le superbe Thanatos de Convar et de Litt, qui est une relecture fascinante de Fantomas. Sauf qu'ici, Thanatos, c'est le génie du crime qui est en train de précipiter les nations les unes contre les autres, qui est en train de créer sous nos yeux la Première Guerre mondiale. Toujours dans la Première Guerre mondiale, les Sentinelles de Dorisson et Préca, où l'armée française développe son propre super soldat. Imaginez Captain America. Sauf que c'est fait pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. Et encore une fois, rappelez-vous, les auteurs savent ce qu'a été vraiment la Première Guerre mondiale. Donc on n'est pas dans une version nostalgique de l'époque, on est vraiment dans la boue et dans la chair qui souffre. Cette vitalité-là se retrouve et déborde. Dans la série Empire, Péco et Gordet, eux, font carrément un steampunk napoléonien. Donc ils explosent totalement la limite temporelle, mais ils gardent toujours les réapparitions de personnalités historiques, de personnages de fiction, et qui sont là pour nous distraire. Parce que quand même, le steampunk a donné quelques chefs-d'œuvre. On pourrait se fâcher et dire lesquels. Lire La machine à différence de Sterling et Gibson, donc écrit à quatre mains par les deux auteurs fondateurs du cyberpunk. Ce qui est marrant, ce sont ces deux auteurs-là qui écrivent le plus grand roman steampunk à mes yeux. Parce que c'est un roman qui va avoir à la fois le sens de l'aventure, du merveilleux, mais aussi avec une description historique brillante et des éléments de science-fiction qui sont cachés au fil du récit, parce que le lecteur attentif se rend compte qu'en fin de compte, l'histoire est simplement la naissance à la conscience d'une intelligence artificielle au XIXe siècle. Le roman en lui-même est brillant. L'âge de diamant de Neal Stephenson, les romans de Sheena Meville, qui... J'avais dit qu'on allait se fâcher. Mais je suis totalement d'accord. Mais le steampunk, mis à part le premier, ce ne sont pas des romans purs steampunk. Mais je ne considère pas que le roman pur steampunk soit en lui-même quelque chose d'intéressant. Si le steampunk n'avait été que raconter une histoire qui se déroule sous la reine Victoria avec des personnages qui ont un iPod mécanique, le steampunk aurait duré 6 mois, 2 ans. Mais avec cette capacité d'investir d'autres formes, de les contaminer et de se les approprier, le steampunk, au contraire, continue à se réinventer. Donc à se matiner avec d'autres formes. L'âge de diamant n'est pas steampunk, mais il a toutes les caractéristiques d'un roman steampunk. Là je suis d'accord. En bande dessinée, il y a la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, d'Alan Moore et Kevin O'Neill. Les Gentlemen Extraordinaires, ce sont simplement les plus grands héros de la fiction. qui sont en lutte contre tous les autres et plus grands héros de la fiction possible. Mais en France, s'il y a bien une bande dessinée qu'il faudrait lire, que vous devriez tous lire, c'est Le Réseau Bombis de Corbeyran et Cécile, qui se déroule dans un Bordeaux steampunk. Donc déjà, c'est pas Paris, c'est rafraîchissant. Mais Bordeaux réinventé, réimaginé dans une atmosphère art nouveau sublime, le tout sur une histoire policière qui est extraordinairement sombre et adulte. Donc voilà, on continue à trouver des variations et à pousser les choses. Le steampunk aujourd'hui, voilà, il bourgeonne. Au cinéma, on a eu un film steampunk, hein, le bien nommé Steam Boy, qui est d'Otomo, voilà, qui est une histoire classique, hein, une histoire de formation d'un jeune technicien brillant. Dans un magnifique Londres chronique. Mais c'est voilà, c'est la seule œuvre qui porte totalement le label steampunk. À côté, on va trouver quantité de petites références. Si on regarde un film de Miyazaki, hein, Le Château ambulant, Le Château dans le ciel, on voit qu'il y a des. Je pense pas que Miyazaki se posait la question, est-ce que j'ai fait du steampunk? Mais on voit qu'il y a une communauté d'esprit. Quand on voit des films comme Le Prestige de Christopher Nolan, qui raconte la lutte de deux magiciens à la fin du 19e, lui-même adapté d'un splendide roman de Christopher Priest, ou encore très récemment, un film totalement idiot, Sucker Punch, de Zack Snyder, voilà, c'est. Mais qui présente de jolies filles en tenue légère qui se battent contre des samouraïs géants dans les tranchées avec des méchants allemands, enfin, voilà, mais qui sont des créatures robotiques, ils ont des petits jets de vapeur qui jaillissent au niveau de l'épaule. C'est voilà, c'est un pur délire, un délire jouissif graphique qui n'a pas d'autre sens que de s'amuser à faire ça. S'ils avaient écrit un peu plus un scénario autour, ça aurait été mieux, mais. Une série télé comme Doctor Who comporte énormément d'éléments steampunk, que ce soit dans les épisodes qui se déroulent au 19e ou dans le visuel de certains décors. La série télé américaine Warehouse 13, donc l'entrepôt 13, utilise des accessoires steampunk, hein, qu'ils ont achetés à un des artistes dont vous avez pu voir les œuvres. Donc tous les accessoires qu'ils utilisent sont des accessoires du 19e, donc des claviers rétro-futuristes, hein, vous avez pu les voir. Ils ont même eu l'idée d'avoir comme grand méchant H.G. Wells, sauf que c'était sa sœur, parce qu'il faut bien savoir que voilà, c'était la sœur d'H.G. Wells qui écrivait ses romans et qui en fin de compte était une super agent secret. Donc voilà, ils ont dans l'idée de faire une série télé steampunk qui raconterait ses aventures au 19e siècle. Allez savoir. La série télévisée Castle, donc qui casse la baraque aux États-Unis, qui est diffusée en France, a eu un épisode qui se déroulait dans la communauté steampunk new-yorkaise. Et un épisode où on présentait, on expliquait ce qu'était le steampunk. La liste serait vraiment très très longue. Le steampunk commence à être maintenant récupéré commercialement. Sur eBay, sur quantité de sites marchands, vous faites une recherche mot-clé steampunk et on va vous vendre quantité d'objets, quantité d'accessoires, quantité de choses. Le label steampunk commence à être vendeur, bon, ce qui est normal, ce qui est notable. Autre nouveauté, on a commencé à avoir des auteurs steampunk. Jusqu'alors, on avait des auteurs qui écrivaient quelques œuvres, voilà, ils faisaient leur gamme, ils s'amusaient avec et ils passaient à autre chose. Là, on a l'auteur américain Gail Carriger avec sa délicieuse série du Protectorat de l'Ombrelle, là, sans âme, c'est une merveille, dont l'héroïne est une vieille fille de 25 ans, vu qu'à 15 ans, elle n'a pas trouvé à se marier, à 25 ans, sa vie est finie. Et nous sommes donc dans ce Londres victorien avec toutes les mœurs victoriennes, mais en même temps des vampires, des loups-garous et de la grande aventure. Ou alors l'écrivain américain Cherry Priest, avec sa série Bone Shaker, qui, elle, explore une Amérique de l'après-guerre de sécession. Bone Shaker, qui, cela vient d'être annoncé cette semaine, devrait être adapté au cinéma. Donc vous voyez, si Hollywood commence à acheter des scénarios, là aussi, c'est qu'ils se disent que le public doit être prêt. Un dernier point, pour se poser la question, qu'est-ce que le steampunk va devenir? Parce que le steampunk a d'abord été une forme littéraire rigolote, puis il est devenu une forme littéraire qui a donné une esthétique, puis il est devenu un mouvement. Avec des gens, des passionnés, qui ont investi cette esthétique-là pour ce qu'ils y trouvaient des valeurs, pour certains même une éthique, un mode de vie, qui ont fabriqué leurs costumes, qui ont fabriqué des objets, non pas pour créer des œuvres d'art, mais pour le plaisir de les porter. On s'est mis à voir apparaître des joueurs qui jouaient à des jeux steampunk. On a vu des groupes de musique steampunk avec une ambiance musicale assez baroque, des groupes qui ne sont absolument pas diffusés à la radio, mais qui sont des groupes constitués, qui tournent, qui vendent leur musique sur iTunes. Des fous furieux qui créent des courts-métrages qu'ils mettent sur YouTube. Des artistes qui exposent maintenant dans des galeries. À Oxford a eu lieu une exposition consacrée aux artistes internationaux steampunk, exposition qui a déplacé les foules. À tel point qu'ils ont dû la rallonger un peu. Le steampunk n'est plus resté une forme close dans le monde de la fiction, mais est entré, voilà, il est entré dans le monde social, artistique, pour réunir ensemble alors, des communautés de steamers pour les anglo-saxons, de vaporistes pour les français. Qui se retrouvent donc sur des forums, sur des sites, sur Facebook, où on s'échange des conseils de lecture, des bons plans, où on se donne des trucs pour de fabrication. Je vous assure qu'il y en a qui travaillent avec une dextérité manuelle assez hallucinante. Et l'on retrouve cette ancienne idéologie des punks, hein, le do it yourself, les punks qui, dans les années 77, se fabriquaient eux-mêmes leurs vêtements en rejetant la société de consommation. Donc là, voilà, les amateurs, les passionnés de steampunk qui créent leurs costumes de toutes pièces. Avec une différence. Un amateur de Star Trek qui a son costume de Perry Rodan, de Star Wars. Mais quand il a son costume, c'est un costume préexistant. Hein, je porte le costume de Dark Vador. Si je devais en porter un, ça serait celui-là. Tandis qu'un amateur de steampunk, il n'y a pas de personnage célèbre steampunk. Donc, il s'invente, et là on retrouve la démarche du jeu de rôle grandeur nature, il invente son propre personnage, qui est à la fois une extension de lui-même, mais aussi un personnage qui peut avoir ses aventures, sa propre fiction. Je m'étais amusé à chiffrer en regardant la fréquentation et tout ça. Je pense qu'en France, voilà, cette communauté-là, c'est 2-3 000 personnes. C'est-à-dire qu'ils vont des amateurs éclairés à ceux qui s'investissent vraiment activement et qui consacrent un temps conséquent dans leurs activités. C'est énorme. Hein. Dans les communautés de l'imaginaire en France, ça fait partie des toutes premières. Parce que ce sont des gens qui sont extrêmement composites. Il y a les gens qui viennent du jeu de rôle, les gens qui viennent de la musique, des arts plastiques, les gens qui viennent, pour certains, des communautés gothiques. Et qu'ils disent, finalement, le steampunk, c'est plus cool que s'habiller tout en noir. Ou encore les gens qui viennent, comme moi, de la littérature. En même temps, cette semaine est sorti le nouveau clip vidéo de Justin Bieber, C'est la chanson qu'il sort pour Noël, dans laquelle il porte un gant mécanique. Il est habillé en steampunk, les décors sont steampunk. Et je suis intimement convaincu que Justin Bieber n'a jamais entendu parler de steampunk. Et que dans son équipe, un de ses multiples assistants ou managers, qui lui a le nez creux, là il y a quelque chose qui est intéressant, il y a quelque chose pour ton prochain clip, ça sera ça. Je vous rappelle, c'est une chanson de Noël. Ça. Donc voilà, les gens se déchirent hein, dans les communautés, dire oh, c'est la mort du steampunk. Ça y est, Justin Bieber récupère, c'est le mot, récupère. Mais je pense que ce mouvement de récupération, au contraire, est extrêmement sain et montre que nous sommes en train de passer là sur le. De sous la surface, on est en train de monter, on est en train de surfer la vague. Qu'est-ce qu'il manque ? Peut-être une grande œuvre, un grand succès populaire, qui fait que tout d'un coup les gens, voilà, la masse saura que le steampunk existe. De la même manière que ma grand-mère connaît le mot gothique. Elle ne connaît pas le mot steampunk. J'espère que dans 5 ou 10 ans, hein, si Dieu lui prête vie, que ce mot en sera entré dans son vocabulaire également. Et pour que cela se passe, voilà, il faut qu'il y ait la bonne œuvre au bon moment. Alors on peut se poser l'autre question qui fait peur. Est-ce que le steampunk va mourir à l'instant où le grand public le connaîtra ? Ou les vieux de la vieille ? Qui, comme moi, fréquente le steampunk depuis 15 ans, tout d'un coup, scandale, des petits jeunes, des petits nouveaux qui, à leur tour, aiment les mêmes choses que moi. Sincèrement, je ne le crois pas. Je pense que le steampunk va poursuivre sa route, que d'autres vont écrire ou imaginer des fictions victoriennes. Je pense que dans le meilleur des cas, le steampunk va continuer à faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire muter, se réinventer. On parle énormément actuellement de dieselpunk. Donc, on est passé du steam au diesel. Alors, encore une fois, c'est une question de mots. Le dieselpunk, c'est simplement la fiction rétro-futuriste. Si vous avez vu le film Captain America, c'est exactement ça. Une technologie qui arrive de manière précoce, mais non plus au 19e siècle, mais dans les années 50. Je vous rappelle que le steampunk, par nature, s'arrête à la Première Guerre mondiale. Donc, la nature a horreur du vide. Donc, apparaît actuellement de nouvelles fictions qui, elles, se fixent dans les années 50, avec toute une nostalgie de ces années-là. Donc, voilà, les procédés, les mécaniques à l'œuvre restent exactement les mêmes, sauf qu'il y a eu une translation historique qui fait que steampunk, dieselpunk, peut-être que dans 15 ans, on parlera d'atomic punk, qui existe lui aussi déjà, suite pensée à Mad Max, et nous sommes dans ces fictions-là. Donc, le steampunk est à la fois extraordinairement vivant, extraordinairement fluctuant, extraordinairement mouvant. C'est un genre que l'on ne peut pas définir. C'est une esthétique qui s'échappe constamment parce qu'elle est toujours dans une démarche de conquête. Cinéma, littérature, télévision, art plastique, mode. Le steampunk est à mon sens en train de nous dire que le passé est en train de nous réserver encore quelques bonnes surprises. Et je suis convaincu que la surprise sera bonne. Je vous remercie. Si vous avez des questions...
C'est à propos de la petite distinction que vous avez faite, avec beaucoup de réserve d'ailleurs, entre le steampunk et l'uchronicité. Alors, il me semble que précisément dans la machine à différence, il y a quand même un point de départ uchronique. Mmh. C'est Charles Babbage réussit à mettre au point son ordinateur mécanique. Mmh. Il en était quand même pas loin. Mmh. C'est un petit peu comme l'invincible armada. Il aurait très bien pu gagner.
Justement, la machine à différence est pour moi un chef-d'œuvre parce qu'il a accompli le tour de force d'être à la fois cohérent uchronique, d'une manière uchronique, cohérent d'une manière steampunk, cohérent d'une manière science-fictive, tout en restant lisible et drôle. Parce que le steampunk est quand même, enfin, doit être amusant. Voilà, c'est pour cela que je le place en premier dans ma liste des réussites. Mais aussi, c'est que, voilà, il n'y a pas eu de suite. Hein. Ils en ont fait un. À noter que la machine de Babbage est actuellement, ils sont en train de monter un programme de financement pour essayer enfin de la construire.
Je crois qu'il fonctionne informatiquement.
Ouais, les modèles fonctionnent informatiquement. Maintenant, il faut savoir si mécaniquement. Je vous rappelle, c'est cette machine-là qui a été subventionnée par le gouvernement britannique au 19e siècle, pour laquelle Ada Byron, donc la fille de Byron, avait écrit ce qui est historiquement le premier langage informatique au 19e siècle. Sauf que, au bout d'un moment, on a coupé les fonds et Babbage n'a jamais pu terminer cette machine qui aurait été donc le premier ordinateur absolument pas portable. Au 19e siècle. Oui.
Est-ce que c'est pas les prémices d'un nouveau monde industriel ?
Je crois que le succès actuel du steampunk, on peut voir trois causes. La première, c'est qu'on est passé ces dernières années dans le domaine de la fiction par une fiction qui était extraordinairement référentielle, mais qui tournait un petit peu en rond. Donc, et qu'en même temps, il n'y avait pas de... Voilà, il y avait la fantasy. Mais on ne peut pas dire que la science-fiction actuelle arrive à proposer des choses aussi nouvelles qu'il y a 15 ou 20 ans. On peut pas, pour la fantaisie, même si j'ai beaucoup de respect pour cette forme-là, c'est quand même une littérature très commerciale qui épuise un peu son lectorat à force de faire des séries à foison. Et le steampunk est arrivé là où personne ne l'attendait. Donc d'apporter voilà, une fraîcheur, une nouveauté. La deuxième raison pour son succès, c'est qu'il a frappé en même temps dans des communautés différentes qui ne se parlaient pas. La communauté des joueurs de jeux de rôle ne parlait pas forcément avec les communautés de lecteurs de science-fiction, même s'il y avait des points de croisement, mais c'était des communautés qui restaient à côté l'une de l'autre, ni qui ne s'intéressaient pas forcément aux arts plastiques, qui ne s'intéressaient pas forcément à la musique, etc. Et donc, voilà, par le steampunk, tout d'un coup, pouf, tout le monde peut se regrouper. Avec le point d'accélération qui a été l'Internet. Contrairement à moi, grandissant dans mon Limousin, il est plus possible actuellement d'être un lecteur fan isolé. C'est plus possible. Alors que il y a quelques années, on croisait juste chez le libraire quelqu'un qui avait les mêmes goûts que nous.
Et on peut imaginer ce qui va se passer avec les fameux Fab Labs.
Ce cosplay,
c'est l'appropriation du monde industriel par les portes.
Ce cosplay steampunk est fascinant parce que justement il peut dire des choses sur nous et notre époque. Il y a cette idée dont on a souvent parlé, que le steampunk, c'est le retour de la matière.
Collage,
Voilà. C'est un objet technologique moderne, même s'il a un design parfait, reste un objet froid, sans connexion avec les enfants qui l'ont fabriqué en Asie. Tandis qu'un objet steampunk, les détournements d'objets steampunk réintroduisent le cuir, le travail du laiton, du cuivre. Donc on réintroduit la main de l'homme dans l'objet. Quand je regarde un véhicule steampunk, on va voir des boulons gigantesques, mais ces boulons, derrière, je sais qu'ils ont été ou qu'ils auraient été fabriqués par la main de l'homme. Donc le coup du marteau qui fabrique la pièce est présent. Voilà, chose que nous avons totalement perdue aujourd'hui.
En parallèle avec les logiciels libres, parce qu'en parallèle aux machines artificielles, il semble qu'il y a quelque chose, une sorte de nouveau monde industriel qui est en train d'émerger.
Alors, le steampunk, en tant qu'esthétique, n'est pas porteur d'une idéologie. Mais par contre, les gens qui le font peuvent injecter l'idéologie qu'ils veulent. Alors, aux États-Unis, il y a eu la bande dessinée Sarah Palin Steampunk, qui était très sérieuse, qui racontait les aventures de Sarah Palin, qui sauvait l'Alaska grâce au charbon, habillée en corset. Mais on peut injecter plus sérieusement toute l'idéologie que l'on veut derrière. Et notamment, tout un discours à la fois sur l'oppression de l'homme par l'homme, en prenant les précautions de rigueur, et il est sûr qu'en se basant sur les modèles sociaux du 19e ou du début du 20e, on peut faire des métaphores très faciles.
C'est le modèle consommateur-producteur,
voilà.
Qui est remis en cause quelque part.
Exactement, oui, exactement. Se rappeler qu'il est possible de faire les choses autrement.
Il y a aussi je trouve qu'il y a une dimension aussi féministe dans le steampunk, aussi des notions. On voit beaucoup d'héroïnes steampunk. Il y en a beaucoup moins dans d'autres courants qui sont nés dans le cyberpunk. Pas beaucoup de hackers femmes. Tandis que dans le steampunk, je trouve que la femme a pris une place très en avance sur son temps. C'est les suffragettes. Il y a beaucoup ça. Donc il y a quand même une idéologie. Il y a quand même quelque chose de bien ou pas bien pour certaines personnes, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que c'est très féministe comme courant. Comme c'est esthétique, c'est normal. On retrouve le corset, tout ce genre de choses.
Avec des auteurs, avec un E, hein, des auteurs femmes qui sont publiés et qui ont énormément de succès, il est vrai que si on prend la science-fiction, c'est un domaine qui était plutôt réservé à des auteurs hommes. Bien. Ben, je vous remercie tous.